savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Bonjour à toutes et à tous. En avril 1990, le 8 avril précisément, était diffusé sur la chaîne ABC aux États-Unis un OVNI, un objet filmique non identifié, un feuilleton, comme on disait alors, signé d'un des grands réalisateurs américains, David Lynch, qui décroche d'ailleurs la même année à Cannes la Palme d'Or avec Sailor et Lula. On ne le sait pas encore en 1990, mais cette série va révolutionner la création audiovisuelle. Cette série, dont les fans célèbrent les 30 ans, c'est bien sûr Twin Peaks, dont les deux premières saisons sont disponibles sur Canal+. Le long métrage Fire Walks With Me, qui a tué Laura Palmer, est accessible sur Netflix. Et les trois saisons, incluant donc Twin Peaks The Return, sont rassemblées dans un coffret. Que raconte cette série? Pourquoi est-elle devenue culte? Quelles sont les multiples pistes d'interprétation, certaines ésotériques, qui s'y rattachent et quel en est l'héritage? Nous allons explorer ces différents thèmes ce samedi en compagnie de deux connaisseurs critiques sériphiles. Charlotte Bloom, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une sérivore insatiable. Vous réalisez pour OCS la série documentaire The Art of Television et Twin Peaks est votre grande passion.
C'est mon grand amour.
En ligne également avec nous, Axel Cadieux, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi êtes critique série et vous avez publié notamment le livre Voyage au pluriel à Twin Peaks en 2016. Commençons par le commencement et peut-être par l'un des premiers ingrédients qui peut rendre totalement accro à cette série. C'est bien sûr le générique, une musique signée Angelo Badalamenti. Écrire ce générique. La première image, c'est un oiseau, je crois que c'est un rouge-gorge ou un rossignol, hein. Puis fondu enchaîné avec un plan d'usine, des plans de machines, on est dans une scierie, avant que le titre Twin Peaks n'apparaisse en majuscule, en lettres vertes, on voit un gros rondin, manifestement nous sommes dans un village très forestier. Et la pancarte de la ville, hein, Twin Peaks, sur fond de deux montagnes jumelles, aux neiges éternelles, et cette mention, population 51 201 habitants. Cette musique synthétique et mélancolique, sur laquelle s'affichent aussi les noms des acteurs, à commencer par le principal, hein, Kyle MacLellan. Alors Charlotte Bloom et Axel Cadieux, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ou de réentendre cette musique? Charlotte, peut-être?
Moi, quand j'entends ce générique, ça fait 30 ans que quand j'entends ce générique, c'est ma maison. C'est là où j'habite, en fait, Twin Peaks. Je trouve que c'est la musique la plus réconfortante, la plus enveloppante, la plus amie que je puisse entendre. Et je n'ai jamais vu, même si on travaille beaucoup sur les génériques de séries, mais j'ai jamais vu un générique et une musique à ce point-là déclencher des émotions. L'impression qu'on va voir cette tarte aux cerises à arriver, l'impression que Del Cooper est à côté de nous. Je trouve qu'elle raconte la série, elle raconte un environnement, un univers. Il dure 1 minute 30 ce générique, il est très long. Hein. Elle raconte tout, en fait, en 1 minute 30.
Axel Cadieux, c'est une musique presque hypnotique et en même temps mélancolique, avec peut-être un soupçon aussi de mystère, voire de danger.
Oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai un rapport moins intime parce que j'ai découvert la série plus tard. J'ai découvert la série autour de 2010, je pense. Mais rien que la réécouter, là, ça fait quelque chose. On est tout de suite replongé dans une atmosphère très très singulière, celle de Twin Peaks, évidemment. Et comme disait Charlotte, il y a un côté enveloppant, réconfortant. Et je trouve qu'il y a aussi un côté un petit peu inquiétant. Et en fait, c'est cette dualité, c'est ce contraste qui fait tout l'intérêt de Twin Peaks à mes yeux. C'est la dimension très 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 amoureuse en fait, pleine de bienveillance et d'une espèce de cosmogonie comme ça qui fait que tout va bien se passer, où les gens s'aiment et l'amour est au centre de tout, et en même temps il y a une grande peur et une grande crainte, un espèce de danger permanent. Et je trouve que le générique raconte très bien ça.
Dans votre livre, Axel Cadieux, vous rappelez un peu la genèse donc du feuilleton, hein, donc dont la diffusion a commencé en avril 1990 sur ABC, mais dont la gestation remonte à peu près une petite année, même pas avant. Comment s'est fait la rencontre? David Lynch est déjà réalisateur, il a déjà marqué un grand coup dans le monde du cinéma avec Eraserhead et Blue Velvet. Il s'associe avec un auteur de télévision, Mark Frost. Lynch avait déjà envie un peu d'explorer justement la télévision. Comment ça s'est fait?
Bah alors en fait, à la fin des années 80, il y a un élément majeur qui se passe, c'est que la maison de production d'un producteur qui s'appelle Dino De Laurentiis fait faillite. Et avec elle, l'essentiel des projets de long métrage de David Lynch. Donc il a soudainement pas mal de temps, et du coup il décide de réactiver pas mal de pistes qu'il avait pour la télé avec Mark Frost. Alors Mark Frost, c'est un peu, l'élément complémentaire idéal pour lui, parce qu'il a une grande connaissance du rythme télévisuel, de comment écrire un épisode. David Lynch a moins l'habitude. Donc en fait, ils vont travailler ensemble. Il y a plusieurs idées qui vont être développées. Et l'une d'entre elles, c'est tout simplement l'idée du corps massacré et violé d'une jeune femme qui est retrouvée aux abords d'un village et qui va un peu, disons, mettre sens dessus un village du fin fond de l'Amérique de 50 000 habitants. Donc voilà, ils vont travailler ensemble et ils vont soumettre l'idée à ABC, donc la chaîne ABC, qui à l'époque a vraiment besoin, disons, d'un renouveau dans ses programmes et qui va décider de miser sur ce programme qui, a priori, est effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, un peu un ovni. Il y a très peu de chaînes qui, au tout début des années 90, fin des années 80, auraient misé sur un pitch pareil.
Alors le pilote, c'est presque un film, hein. Le pilote dure une heure et demie. On comprend très vite qu'on est dans une série policière, puisque dès les premières minutes donc de cet épisode, on retrouve le corps sans vie de Laura Palmer, la reine du lycée de ce village forestier de l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. C'est un bijou d'écriture, ce pilote, Charlotte Bloom. Notamment, je pense à l'annonce de la mort de Laura Palmer à ses parents. On est dans les premières minutes. Les parents comprennent sans même que le mot mort ou meurtre soit prononcé.
Bah, là, on retrouve le côté méditatif, intuitif de Lynch qui travaille sur les sens et qui travaille sur le ressenti davantage que sur les faits. C'est pour ça, Axel, il a raison, c'est un très bon duo, Mark Frost, David Lynch, parce que Lynch va amener ce côté sensitif, méditatif, là où Frost va ramener le côté explicatif, qui va devenir de plus en plus lourd, d'ailleurs, au fur et à mesure de la série, et au fur et à mesure que David Lynch s'en désintéresse, Frost va devenir l'homme qui explique tout, et on va perdre un petit peu de ce côté rêveur. Donc c'est vrai que dès le début, on comprend qu'on regarde une série où on va pas forcément tout nous expliquer, et où les personnages vont avoir comme une sorte de sixième sens, comme une sorte d'autre dimension qui va être sublimée par l'arrivée de Dale Cooper, cet agent du FBI qui médite, qui voit des solutions dans ses rêves, qui ne parle que du Tibet, qui est complètement décalé, complètement peut-être d'un autre monde finalement quand il arrive dans Twin Peaks. Donc on comprend en fait dès le début des pilotes qui étaient quasiment prévus pour être un film, c'était un coup de poker, si ça ne marchait pas, ça restait un film et voilà, l'unitaire fonctionnait très bien tel quel. On comprend qu'on amène à la télé quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, qui est le point d'interrogation. On amène ce moment où on n'aura pas toutes les réponses tout de suite, voire certaines jamais, voire certaines dans 25 ans.
Ce qui est assez paradoxal, parce qu'en fait, en tout cas, ce que vendent peut-être aux décideurs de la chaîne et au départ peut-être aux spectateurs, c'est une série policière, une relecture du Who Done It, c'est-à-dire qui a fait le coup, hein, tout l'objectif va être de retrouver le meurtrier. On est un peu sur les traces de Hitchcock, quelque part, lointainement.
Le but, c'est de savoir qui est le meurtrier, mais le deuxième but, le vrai but caché, c'est de tenir le plus longtemps possible à la télé. Et c'est d'ailleurs pour ça que Lynch et Frost, qui sont des petits malins quand même, c'est pas juste des créateurs, c'est aussi des petits malins, vont faire en sorte qu'on ne sache pas qui a tué Laura Palmer dans la première saison, que ça traîne, qu'on prenne le temps. Et au final, ce qu'ils racontent, c'est pas tant une série policière qu'un pan de vie, qu'un mois et demi au milieu d'une Amérique qu'on montre pas beaucoup à la télé, l'Amérique des diners, l'Amérique des routiers, l'Amérique des cheerleaders, une Amérique qui va lentement. On est loin en fait de tous les codes de la télé. On a mis un coup de frein hein, vraiment sur ce qu'est l'Amérique, sur ce qu'est le récit. Et très très doucement, elle va se détacher de ce qu'est le polar. Et d'ailleurs, Twin Peaks, elle est vraiment à la croisée des genres. Elle va se moquer du soap. Ça va être un family drama. C'est 1000 séries en une série, en fait. Finalement, on se rend compte que le polar, c'est une partie, une facette de ce qu'est Twin Peaks, véritablement.
Et le personnage principal de la série, vous l'avez déjà cité, Charlotte Bloom, c'est l'agent spécial du FBI, Dale Cooper, interprété par Kyle MacLellan. Il n'apparaît qu'à la 37e minute du pilote.
Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks, 5 miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line. I've never seen so many trees in my life. As W.C. Fields would say, I'd rather be here than Philadelphia. 54 degrees on a slightly overcast day. Weatherman said rain. You get paid that kind of money for being wrong 60% of the time. It'd be working. The mileage is 79,345. Gauge is on reserve. Riding on fumes here. I got to tank up when I get into town. Remind me to tell you how much that is. Lunch was $6.31 at the Lamplighter Inn. That's on Highway 2 near Lewis Fork. That was a tuna fish sandwich on whole wheat, slice of cherry pie, and a cup of coffee. Damn good food.
On est donc à la 37e minute du pilote de Twin Peaks et on découvre Dale Cooper, le personnage principal, l'agent spécial du FBI. Il est au volant de sa voiture, là, il parle par dictaphone interposé à son assistante, Diane, qu'on ne verra jamais, en tout cas pas dans les deux premières saisons. Il est très minutieux, il est presque maniaque hein, dans sa recension des faits, dans le fait qu'il ait mangé pour plus de $6 dans un diner. Voilà, il raconte ce qu'il a mangé. Et en même temps, donc, il a l'air espiègle, brillant, lunaire, frugal. Enfin, c'est un peu tout ça à la fois, Dale Cooper.
Ce que je trouve génial dans ce personnage, c'est que à la fois, c'est le spectateur, c'est-à-dire qu'il arrive presque avec nous, une demi-heure après nous, dans la ville de Twin Peaks. Donc c'est un peu notre véhicule et en même temps c'est pas non plus l'archétype du détective qui est plein de certitudes qui vont progressivement être déconstruites. Il arrive déjà dans la ville avec l'envie quelque part de se laisser submerger par elle. Donc en fait c'est là qu'il est intéressant, c'est qu'il a déjà en lui cette ouverture, comme le disait Charlotte, ce côté tibétain, presque bouddhiste par certains aspects, où il est capable de s'ouvrir aux éléments en fait, de s'ouvrir au sens. Et là-dessus c'est un personnage qui est vraiment différent, qui sort un peu des habitudes qu'on a du personnage qui va remettre en cause toutes ses certitudes. Là non, il a déjà en fait en lui la volonté de changer, voire de s'immerger dans quelque chose. Et d'ailleurs progressivement, il va faire partie de la ville. Il va délaisser son costume d'agent du FBI pour être un habitant parmi les autres.
On sait pourquoi il opère seul, d'ailleurs, parce que normalement, dans les séries, souvent on voit des agents du FBI par deux. Lui, il est toujours tout seul. Il parle à Diane. Dans la saison 2, on verra son supérieur, qui est d'ailleurs joué par David Lynch lui-même, avec beaucoup d'humour, hein, un supérieur un peu sourd. Mais dans toute la première saison, il est tout seul. Alors il retrouve, comme il le dit, le shérif Harry S. Truman. Mais c'est un agent du FBI solitaire.
Bah, je crois que j'ai pas vu la série depuis quelques années, mais il y a un petit trauma quand même au niveau d'un de ses partenaires passés, en la personne de Wyndham Earl, qui sera un personnage malfaisant qui arrivera en fin de saison 2, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, oui, je pense qu'aussi c'est un personnage incomplet qui est dans la recherche d'un équilibre en fait. Et on sait combien l'équilibre c'est fondamental chez Lynch. Dale Cooper, c'est un personnage qui recherche quelque chose, qui n'est pas encore dans une forme de sérénité, disons, qui pourrait y parvenir, mais qui est juste sur le point de. Donc forcément, je trouve que c'est une idée géniale de le présenter seul parce qu'il est incomplet, en fait, à mon sens. Hein.
Charlotte, alors Axel Cadieux, Charlotte Bloom disait que vous êtes une inconditionnelle du personnage de Dale Cooper et de l'interprète Kyle MacLellan.
Oui, je suis un peu amoureuse, bon. C'est un secret pour personne, disons-le. Mais je suis complètement... J'accroche à cette théorie du personnage incomplet que raconte Axel. Et d'ailleurs, on a beaucoup dit, Lynch a beaucoup dit qu'il a mis beaucoup de lui dans ce personnage, le personnage de Dale Cooper. Il lui a mis la méditation, il lui a mis ce côté très proche de la nature, ce côté... très ouvert au monde, très à l'écoute du monde. Et je pense qu'il y a aussi un parallèle entre la relation entre Mark Frost et David Lynch, où on a un rêveur qui a rencontré un cartésien, qui peut se refléter chez Del Cooper, qui va rencontrer Harry Truman, et ils sont très différents. Et tout doucement, ils vont apprendre à se compléter. Et d'ailleurs, ce duo va se renforcer, puisque au moment où, pour X raisons, Del Cooper va être écarté du FBI pendant une période, il va devenir vraiment le binôme, le collaborateur de Truman. Donc vraiment, on sait que c'est un personnage qui est très proche de Lynch. Et finalement, on se rend compte que cette alchimie, ce duo un peu bizarre de loin, mais très efficace de près, on le retrouve à la fois dans les personnages. Et d'ailleurs, c'est souvent des personnages incomplets, et c'est souvent des personnages qui vont se métamorphoser, puisque la dualité, les interrogations internes des personnages, c'est une des essences de Twin Peaks. Et on va voir des personnages qui vont changer même physiquement en cours de série. On va voir Leland Palmer qui va avoir les cheveux blancs du jour au lendemain. On va avoir Donna Hayward qui va se mettre à fumer sans raison, pareil, du jour au lendemain. C'est vraiment une série transformative. C'est une série où les personnages se découvrent, et je pense que c'est une série où Lynch s'est découvert aussi pas mal, pour le meilleur et pour le pire, puisque c'est quand même une série qui a été dure pour lui. Il dit souvent que la télé a tué son bébé, qu'on a manipulé ses idées, etc.
Alors Del Cooper, une chose qui ne changera pas pour Del Cooper, c'est sa gourmandise. C'est vraiment un des traits aussi caractéristiques. C'est le personnage qui incarne une forme de la loi et une sorte d'ordre. Il a un côté maniaque et en même temps très excentrique, et il est très gourmand. À chaque fois, il parle du café, du bon café, de la tarte aux cerises, des donuts ou des donuts qu'il déguste au commissariat local.
A policeman's dream.
Yep. Lucy sets it up for us every night.
Sheriff, is everything okay? There's extra jelly donuts for Agent Cooper. And there's some extra decaf, you know. Andy's been drinking so much caffeinated coffee lately.
Thank you, Lucy. You can go back to work now, and no listening.
Can you recommend to me a good, inexpensive hotel or motel? Now, it doesn't have to be fancy, and I mean that.
I can get you a good rate up at the Great Northern.
Because, you know, I think I'm going to be here for some time. And these motels, they'll promise you a good rate, and when you get there, it's a whole different story. Now, all I need is a bed, a bathroom, a telephone.
Donc là, Del Cooper vient d'arriver au commissariat. Il y a quand même Laura Palmer qui a été retrouvée morte. Toute la ville est sous le choc. Mais lui, il est en train de déguster les donuts qui ont été fabriqués par la standardiste, Lucy, dont on a entendu la petite voix. Et il s'interroge sur là où est-ce qu'il va pouvoir trouver une chambre pas trop chère et bien. Donc on comprend qu'il va trouver refuge à l'hôtel du Grand Nord, qui sera aussi un des lieux importants de la série. La gourmandise, le principe de plaisir, une sorte d'humour quand même, aussi beaucoup, un humour tout particulier, ça fait partie des ingrédients de la série, le fait de prendre son temps.
Je prends la parole,
bien sûr.
De prendre la parole rapidement. En fait, on a l'impression que là, on est sur des à côté, on a l'impression qu'on est sur du détail. Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je vais manger? Quel café je vais avoir? Mais en fait, on est au contraire dans le cœur de Twin Peaks. Et c'est là que ça devient fascinant, et c'est là que c'est une série hors du commun. C'est que tout à l'heure, par exemple, Sophie, vous parliez de Hitchcock. Hitchcock, c'est le maître du MacGuffin, c'est-à-dire que on va trouver un peu une intrigue, une enquête, mais qu'en fait est juste un prétexte pour raconter autre chose. Et Twin Peaks, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le meurtre de Laura Palmer, évidemment, on s'y intéresse, mais ce que racontent Twin Peaks et Lynch et Frost avant tout, c'est les à côté. C'est le moment où on va se poser, c'est le moment où on va prendre le temps de déguster un donut, c'est le moment où on va prendre le temps de boire un café chaud avec quelqu'un qui va devenir son meilleur ami ou l'amour de sa vie. Et en fait, c'est ces moments-là de creux, en fait, un peu dans les plis, un peu du quotidien, dans les moments qu'on montre pas habituellement à la télé, qui vont faire de cette série quelque chose de singulier et d'extrêmement à part. C'est que oui, là on a pour l'une des premières fois à l'écran, à la télé, des moments qu'on montre pas, des moments qui normalement sont réservés à l'ellipse. Et là, je trouve, à mon sens, que la série prend une dimension vraiment différente et vraiment très émouvante.
Alors, au début des années 90, on l'a dit un peu, ce qui marche à la télé américaine, ce sont les séries policières et les soap operas. Finalement, Twin Peaks, d'un point de vue d'un aspect très superficiel, aborde ces ingrédients, mais finalement, il les pervertit avec du surnaturel, du bizarre, de l'onirisme. Ces moments, comme vous le disiez, Axel, où on peut se dire, c'est des moments creux, totalement anecdotiques, mais en fait, qui sont le cœur et qui vont faire tout le sel de la série. Du coup, Axel, comme vous le dites dans votre livre, Mark Frost et David Lynch, ils ont un peu dupé, finalement, les décideurs de ABC. Il leur présentait pas les synopsis tout de suite, il mentait un peu sur les histoires.
Ouais, alors bon, c'est un truc qui est, je dirais pas fréquent, mais qui est déjà arrivé à la télévision. Comment est-ce que on peut faire croire à des décideurs, effectivement, en l'occurrence à ABC, qu'on va raconter une histoire alors qu'en fait on en raconte une autre en sous-main. C'est quelque chose qui est assez fréquent chez les cinéastes notamment. Et là, en l'occurrence, oui, ils vont présenter des scénarios qui sont pas exactement ceux qui vont être tournés. Donc ABC va découvrir parfois des épisodes auxquels ils s'attendaient pas forcément. Et surtout, bah, Twin Peaks, c'est une question de rythme, c'est une question de lenteur. C'est un truc que Lynch répète très fréquemment à ses cinéastes, ceux qui vont réaliser les épisodes, c'est prends ton temps, ou à ses monteurs aussi, prends ton temps, abandonne certaines habitudes, n'hésite pas à ralentir, n'hésite pas à remettre des plans, du vent dans les arbres, tout ça. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas visible au scénario. Donc effectivement, ABC va se sentir parfois un peu floué, et notamment en fin de saison 1, donc la saison 1 au bout de 7 épisodes se termine sur Kyle MacLachlan qui vient de se faire tirer dessus. Et là, c'est un peu une manière quand même pour David Lynch et Mark Frost de dire à ABC, maintenant en fait vous êtes obligés de nous signer une saison 2 parce que c'est impossible que ça se termine comme ça. Et Lynch est déjà suffisamment malin pour savoir qu'il a une grosse communauté de fans et que la communauté de fans va faire levier. Et va être suffisamment audible pour un peu forcer la main, disons, des décideurs. Donc c'est, comme le disait Charlotte, évidemment un grand artiste, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien les rouages et les mécanismes de la télé.
Charlotte, on en parlait, là, il y a l'intrigue policière, mais qui est un peu un prétexte pour explorer toute forme de choses, on le disait, donc les plaisirs de la vie, mais aussi en fait toutes les turpitudes, tout ce qui se cache derrière l'apparence. Et Twin Peaks, c'est ça, c'est une bourgade de l'Amérique moyenne, typique, mais en sous-main, dont on va découvrir la vie cachée, les turpitudes de tous les notables, tous les habitants de Twin Peaks. On explore un peu tous les milieux sociaux, on parle de violence conjugale, on parle d'adultère, on parle de vengeance, il y a des trafics de drogue, il y a un bordel clandestin. La série, Charlotte, elle dynamite, à heure de grande écoute, le mythe de l'Americana.
Oui, ce qu'avait déjà fait Lynch avec Blue Velvet, au final... en nous montrant d'abord des jolies petites maisons pavillonnaires et après en nous emmenant dans un récit sombre, violent, plein de sexe, plein de menaces, plein de dangers. Enfin, c'est sa marque en fait. Lui qui a grandi dans ces petites villes qui font rêver, et il parle d'ailleurs d'une enfance très heureuse, etc. Ça a toujours été son truc d'aller montrer le sombre derrière la lumière, quoi. Et il l'amène à la télé. Et d'ailleurs, il le fait, lui, une fois avec Twin Peaks, et ensuite, on va voir ce système dans des grandes séries populaires, je sais pas, je pense à Desperate Housewives, par exemple, qui va reprendre exactement ce système, et nous montrer des belles maisons, des belles femmes, des belles voitures, et puis montrer que derrière tout ça, derrière l'apparence, il y a la vraie vie, quoi. Il y a le vrai danger. Effectivement, il nous laisse pas en plan devant la maison. Il nous fait rentrer dans la maison, et il nous fait rentrer dans les secrets, il nous fait rentrer dans les petites pièces cachées. D'ailleurs, c'est une série où il y a beaucoup de pièces secrètes, de placards secrets.
De double fond, d'autres dimensions aussi même.
Il y a toujours autre chose cachée derrière. Parfois, c'est de la beauté et parfois, c'est de l'horreur. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne voit pas le monde et qui ne voit pas la vie comme quelque chose de plat ou d'unidimensionnel. Il est toujours dans le « qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ?» Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui lui vient beaucoup de la méditation, puisqu'il en parle comme d'un système pour ouvrir les tiroirs de l'esprit, quoi. De toujours aller chercher ce qui se passe derrière. C'est quelqu'un qui enlève les couches, en fait. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il enlève des couches pour montrer un truc sale en dessous, puisqu'on va voir quand même des personnages qui vont se découvrir, qui vont découvrir l'amour. Voilà ce que disait Axel, il a raison, l'amour c'est le cœur de cette Amérique-là et c'est le cœur de cette ville-là, malgré qu'elle s'ouvre sur un meurtre en fait. Et c'est quand même des personnages qui regardent l'amour à la télé. On a ce soap là, Invitation to Love, qui est complètement grotesque, mais qui sert aussi un peu de fil conducteur à la série, qui va répondre aux scènes qui se passent dans la série. Et on voit que ces personnages, ils ont besoin d'amour, et quand ils l'ont pas, je pense à un personnage comme Shelley, elle va le regarder à la télé. Donc il y a une espèce de quête comme ça d'un monde plus beau, d'un monde plus chaud qu'on va suivre dans Twin Peaks. Et moi, c'est peut-être ça qui fait que je la regarde autant, je l'aime autant et que je m'en nourris. C'est qu'elle apporte, je trouve, quelque chose, bah, toujours comme ça, de beau, d'enveloppant, de chaud. C'est un foyer presque, un grand foyer de 5000 personnes.
Un grand foyer avec des personnages aussi, bon, certains que l'on connaît, enfin, qui sont archétypaux, mais auxquels on peut plus se raccrocher. Et puis d'autres, des personnages totalement bizarres, excentriques. Je pense par exemple, évidemment, à Log Lady, la femme à la bûche. qui est une femme comme ça, au visage très austère, avec toujours une bûche comme qu'elle porte comme si c'était son nourrisson, et qui va comme ça parler par énigmes ou délivrer des vérités. Il y a le docteur Jacoby, bon, il y a Leland Palmer, qui est le père éploré, on va dire, de Laura. Il y a Lucy, la secrétaire du shérif. Presque chaque habitant a un côté décalé, qu'on ne voyait jamais, pareil, à la télévision en 1990.
Ouais, mais je pense que ça... En fait, je ne sais pas si ça vient de Lynch ou de Frost. Moi, bon, je pense que c'est les deux. Mais c'est parce qu'il y a un côté hyper ludique, en fait, qui ne quitte jamais David Lynch aussi. C'est qu'il y a un décalage qui fait qu'il regarde tout ça avec pas mal d'amour. Et en fait, je crois que malgré le décalage de ces personnages, effectivement, le personnage de Lucy Moran, par exemple, est un peu... presque absurde, mais chez chacun de ces personnages, il parvient à aller saisir quelque chose d'hyper beau et d'hyper simple, et on en revient toujours à l'amour, mais tous ces personnages-là cherchent du réconfort quelque part. Et je pense au personnage de Harry Truman, donc celui qui va devenir le coéquipier de Dave Cooper, c'est quelqu'un d'a priori extrêmement professionnel et qui finalement, qui n'est a priori que professionnel, et qui progressivement au cours de la série, va littéralement s'ouvrir. Et je trouve que chez chacun de ces personnages, il trouve une petite chose, une petite pièce qui va lui permettre d'aller ailleurs, même si à la base c'est des personnages de fiction. Ben non, en fait, il va les humaniser, il va leur apporter une vraie intimité à chaque fois.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, mais on reste évidemment dans l'univers de Twin Peaks avec cette chanson de Nightingale chantée par Julie Cruise. Bien sûr, RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Charlotte Blum et Axel Cadieux pour parler de Twin Peaks. Ce titre, d'ailleurs, on peut l'entendre dans la série, un titre vaporeux, lancinant, qui laisse entrevoir de lourds mystères. Musique d'Angelo Badalamenti. Et d'ailleurs, Charlotte Blum, Axel Cadieux, cette musique d'Angelo Badalamenti avec des thèmes musicaux très très spécifiques pour certaines ambiances ou pour chaque personnage, c'est vraiment aussi l'un des grands ingrédients, ça a vraiment contribué au succès de la série, en tout cas à la forte impression qu'elle peut faire chez ses fans.
Ce qui est formidable, je trouve, c'est que ça fait partie aussi de ce que David Lynch a apporté à la télé, de pourquoi on dit que Twin Peaks a tout changé. C'est que il était clair pour lui qu'on n'allait pas apporter moins de détails et moins d'attention à une œuvre sous prétexte qu'elle était sur ce médium télé qui était déconsidéré à l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît normal que des cinéastes fassent ou veuillent faire des séries. À l'époque, c'était évidemment beaucoup plus rare, voire carrément un peu la honte, quoi. Et même sur la musique, il était clair qu'il fallait qu'on accompagne le récit, qu'on accompagne les personnages, que chaque personnage allait avoir sa couleur musicale. Et on a vraiment le sentiment que, comme ce duo Mark Frost-David Lynch, le duo David Lynch-Badalamenti, mais qui s'étend au-delà de Twin Peaks, c'est presque une seule personne en deux personnes. En fait, Badalamenti, c'est un traducteur musical de la pensée de Lynch. D'ailleurs, il y a cette vidéo hyper connue sur YouTube où il explique Badalamenti comment il a construit le thème de Laura Palmer et quel était son dialogue avec Lynch. Et on a l'impression de deux hommes qui se comprennent presque sans se parler, qui arrivent à traduire la pensée l'un de l'autre. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on est très attaché à ce générique, c'est qu'en trois notes, on sait où on est. Et en trois notes, parfois, on sait quel personnage va arriver. La musique raconte l'histoire et raconte les émotions et raconte la peur aussi bien que les images, aussi bien que les dialogues. Et d'ailleurs, j'aimais bien parce que dans votre générique d'émission, il y a cette phrase « Il n'y a pas de temps mort au cinéma ».
Oui, c'est...
Et en fait, dans la série, il y a beaucoup de temps mort et le temps mort, c'est la musique. Et ça fait partie vraiment du récit et ça fait partie de l'histoire. Et ça rend, je trouve, la série encore plus belle, encore plus unique. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. La musique, elle a changé de place à la télévision, notamment, c'est un des éléments qui a changé, je trouve, grâce à Twin Peaks.
Axel Cadieux, donc la saison 1 de Twin Peaks est diffusée le mardi soir en prime time, donc sur ABC. Et cela fonctionne, ça marche, enfin, ça rencontre vraiment un grand succès, en tout cas aux États-Unis, moins quand ça sera diffusé sur la 5, la chaîne de Berlusconi en France. Est-ce qu'on peut dire que ça marche contre toute attente? Est-ce que tout le monde est surpris?
Est-ce que ça marche contre toute attente? Je pense que les gens sont surpris par l'ampleur du phénomène, mais je crois qu'il y a quand même une attente à la base. Parce que David Lynch est quand même connu, David Lynch a quand même un certain passif, il est connu des cinéphiles, il est connu du milieu. Donc je pense quand même que la série est attendue. En revanche, que ça marche à ce point, dès le pilote d'ailleurs, hein, où en fait on s'attend à ce qu'au bout de 40 minutes, l'audience baisse un petit peu, alors qu'en fait elle explose encore davantage, elle peut toujours progresser. Oui, ça c'est une surprise. Et puis ça va pas se tarir sur l'ensemble de la première saison. Ça sera moins vrai sur la deuxième. Donc c'est un vrai phénomène de société pour le coup de la première saison, hein, où les gens, un peu comme quand une série vraiment dépasse le cadre, de la culture pour rentrer dans le domaine vraiment sociétal, où en fait les gens vont se retrouver entre eux, ils vont en parler même quand la série n'est pas diffusée, et ça va devenir vraiment un élément de discussion au-delà des plages de diffusion. Donc ouais, la série atteint cette dimension-là assez rapidement. En fait.
Donc un succès phénoménal, international. C'est vrai que la reine d'Angleterre, Elisabeth II ou même Gorbatchev en sont fans?
Ben, c'est ce qu'ils disent en tout cas, c'est ce qui s'est dit. Et je crois que même l'ont dit. Ouais, à l'époque, oui, apparemment, il manquait pas une diffusion. Tout comme Paul McCartney, je crois, qui disait qu'il voulait pas faire de concert au moment où la série était diffusée. Il y a pas mal d'années comme ça, mais ça va être vrai de quelques pas énormément de séries, mais ça va être vrai de quelques séries comme ça qui vont un peu devenir vraiment des phénomènes de société. Je pense aux Sopranos aussi, qui va avoir cet effet-là aux États-Unis, Game of Thrones, oui, ça prend une ampleur démentielle. Là où c'est passionnant avec Twin Peaks, c'est que ça fonctionne tant qu'ils ne révèlent pas l'identité du ou des meurtriers. Et une fois qu'ils sont forcés de le faire, ou qu'en fait la série continue à vivre un peu en vivotant sur une espèce d'équilibre un peu instable, le public va moins suivre. Et c'est une grosse erreur d'ABC qui a un peu forcé la main de David Lynch et Mark Frost en leur disant maintenant il est temps de révéler l'identité. Eux ne le voulaient pas, ils auraient aimé que ça dure, mais ils auraient aimé continuer à faire durer le MacGuffin justement. Raconter un peu les cafés, les donuts, raconter la raconter les excursions en barque sur le fleuve, tout en ayant en parallèle cette enquête-là, quitte à peut-être ne jamais révéler l'identité du meurtrier, ou alors à la toute fin, finalement, ça aurait même plus d'importance, mais il y aurait d'autres choses qui auraient été racontées. Là, une fois que l'identité est révélée, les gens s'en sont un peu désintéressés, et c'est dommage parce que c'était justement le véhicule qui permettait de raconter plein d'autres choses.
Oui, parce que vous le disiez effectivement, donc 8 épisodes la première saison. On pense qu'avec l'épisode final, on va connaître l'identité du meurtrier, mais non, ça se termine avec ces plans, un pistolet et quelqu'un tire sur Dale Cooper, poussant ABC à signer pour une saison 2 avec une reprise donc après l'été 1990, une reprise en septembre. Et le premier épisode de cette saison 2 nous fait basculer dans l'onirisme encore plus, hein, je veux dire, avec le surnaturel, avec l'apparition à Dale Cooper inanimé d'un géant venu dans ses eaux.
The first thing I will tell you is there's a man in a smiling bag. Second thing is the owls are not what they they seem. The third thing is, without chemicals, he points. This is all I'm permitted to say. Give me your ring. I will return it to you when you find these things to be true.
Voilà, un premier épisode de la saison 2 de Twin Peaks. Voilà, un géant qui parle sous forme d'énigmes ou de symboles, presque de poèmes. Hein, et cette phrase qui reviendra comme un leitmotiv et qui est une des phrases aussi devenues culte, « Les hiboux ne sont pas ce que l'on pense ». Charlotte Bloom, ce début de cette saison 2, bon, jusqu'à la révélation du meurtrier, puis après ça ira après dans d'autres méandres, mais cette saison 2, elle explore aussi la question du mal. Vous parliez de l'amour tout à l'heure, tous les deux, Axel et Charlotte, mais David Lynch, Mark Frost explorent aussi beaucoup la question du mal.
Bah, ils sont toujours sur le moment du déséquilibre, en fait, sur le moment où on va plonger d'un côté vers l'autre. D'ailleurs, c'est aussi, il me semble, dans cet épisode-là, que les personnages mutent, que Leland change de couleur de cheveux, qu'il arrête son deuil, qu'il arrête de chialer et qu'il redevient un homme qui fait des claquettes. D'ailleurs, c'est assez indécent. Enfin, c'est un père qui a perdu sa fille il y a une semaine et parce que la série, elle a un rythme très lent, elle a un rythme jour après jour. Mmh. Donc, on suit vraiment leur évolution au fur et à mesure qu'ils la vivent. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce moment où on est un mélange du bien et du mal et on est en déséquilibre dessus. Et la série, ce que je trouve assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens « c'est quoi pour toi Twin Peaks ?», ils vont toujours dire « c'est le géant ». C'est The Man from Another Place, c'est le nain, c'est les rideaux. Et en fait, c'est des images qu'on voit très peu. En vérité, l'équilibre entre l'onirisme et le réalisme dans Twin Peaks, c'est du 90-10, quoi. Et notre cerveau, il va se greffer sur ces images incroyables, différentes, etc., qui va faire le sel de la série et qui va effectivement aller piocher davantage dans le mal, comme si on avait tellement l'habitude qu'on nous raconte pas des jolies choses, qu'on va aller se rattacher à ce côté difficile. Parce que oui, la série, elle souffle sur un meurtre, mais après, elle raconte la vie quotidienne, c'est tout. Mais le cerveau et la mémoire, elle va se rattacher à ces moments-là. Moi, je trouve ça super drôle, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, quand je parle de Twin Peaks, qui me disent « moi, j'ai lâché l'affaire, j'ai rien compris, il y avait un nain qui dansait à l'envers », alors qu'en fait, c'est rien. C'est 10 minutes, ce moment-là. Et c'est très drôle de voir comment on s'attache à ce que n'est pas cette série.
Mais il y a quand même cette vision un peu qui aura marqué aussi durablement, c'est cet esprit malin, Bob, donc qui n'est pas a priori un personnage de chair et de sang, mais qui prend possession en gros des gens. Il est terrifiant, ce Bob. Et vous racontez, Axel Cadio, que c'est complètement une sorte de hasard, encore une fois, mais ça c'est David Lynch qui a laissé faire aussi son intuition. C'était en fait, Bob est joué par Frank Silva, un accessoiriste. Et David Lynch, un jour, a vu le reflet de l'accessoiriste lors du tournage et il a eu cette idée géniale.
Ouais, alors moi, je le raconte, mais l'anecdote est très connue. Hein. C'est simplement que oui, pendant le tournage d'une scène, il a vu le reflet, le visage émacié et un peu flippant de Frank Silva, et il a décidé de se saisir de ce hasard pour en faire un élément central de la série. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez symptomatique de sa manière de travailler, et c'est le cas de pas mal de grands cinéastes qui sont capables en fait de rebondir sur l'instant pour créer. Ils ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent, mais ils sont quand même ouverts, disons, aux imprévus. Mais il y a aussi cette anecdote, par exemple, du corps de Laura Palmer qui est sur la table d'autopsie. Il y a une ampoule au-dessus d'elle qui commence à grésiller. Tout le monde est sur le point de s'arrêter parce que les gens qui travaillent à la télé, bah, l'imprévu comme ça, on le prend en compte au point, disons, de revenir au plan initial. Et David Lynch dit non, on continue, on utilise ça. Et cette malléabilité-là, cette flexibilité-là, je trouve, qui lui permet aussi de gérer un peu la série à distance, parce qu'il n'est pas totalement control freak, il a de la flexibilité, et en même temps de rebondir et de rester toujours dans la création, en fait.
Dans la création, jusqu'à ce que vous l'évoquiez tout à l'heure, jusqu'à ce que ABC force un peu la main pour que dans la saison 2 on révèle révélé le nom de l'assassin. Je pense qu'on peut divulguer à nos auditeurs, c'est Bob, mais en fait Bob qui a qui a hanté, enfin qui a pris possession du, je sais pas comment on peut le dire vraiment, enfin en tout cas c'est le père de Laura Palmer, c'est Leland Palmer mais habité par Bob. Et vous êtes d'accord tous les deux, je pense que même David Lynch le reconnaîtra, que à partir du moment où l'identité de l'assassin est révélée, la série va se perdre.
La série elle se perd aussi parce que Lynch s'en désintéresse complètement, comme vous disiez, il a eu une palme. D'un côté, il y a le cinéma qui lui sourit, il est célébré au cinéma. D'un autre côté, il y a ABC qui est en train de gâcher sa série, qui lui force la main, qui l'oblige à accélérer un rythme que lui a créé volontairement lent. Donc il va plus trop être là en fait. Et on va se retrouver avec des auteurs qui vont essayer de faire du Mark Frost et Lynch, même si Frost sera toujours là. On va avoir des réals qui vont essayer de faire du Lynch. Et ça, vraiment, ça amène à des grands moments d'embarras. On a des épisodes qui sont absolument catastrophiques dans la saison 2. Moi, je suis en train de la revoir pour un podcast qui s'appelle Lynch-splaining, dans lequel on raconte tous les épisodes. Mmh. Et on se marre, on a honte en fait de ce qu'on regarde. Il y a des moments de grand embarras. Et c'est un peu là que Twin Peaks redevient une série télé, quoi. C'est-à-dire que ça a été un objet artistique, ça a été l'objet du rêve de Lynch. Et puis à un moment, on a l'impression que la chaîne a repris le dessus, déjà en obligeant à conclure l'histoire, ensuite en changeant les soirs de diffusion. C'est-à-dire qu'en télé, le soir où on est diffusé, ça peut nous tuer ou nous faire renaître. Mm. Et eux, ils ont beaucoup joué ABC avec la date de diffusion de la série et les gens étaient perdus. Ça passait du dimanche au jeudi, au samedi. On dirait qu'il y avait une volonté d'ABC d'accélérer la mort de cette série. Et pendant des années, Lynch a dit « on a tué mon bébé ». Quoi. Donc oui, la série, elle perd en qualité, elle perd en logique, parce que elle perd son essence, elle perd son papa, quoi, quelque part.
L'idée de la Black Lodge, enfin cette chambre, une sorte de limbe, je sais pas comment on peut la définir autrement, dans laquelle pénètre Dale Cooper, ça c'est une idée de David Lynch. C'est vraiment cet endroit aux lourdes tentures rouges, hein, comme des rideaux de théâtre, avec une moquette au motif géométrique chevron. C'est du pur Lynch.
Je ne sais pas, mais j'ai du mal à imaginer que ce soit pas le cas. mais j'ai pas vraiment d'infos sur comment est née cette Black Lodge, pour être honnête.
Non, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'elle prend beaucoup plus d'importance dans la saison 2.
En fait, je crois qu'elle prend plus d'importance parce que la saison 2 termine là-bas. Le dernier épisode, c'est une expérience sensorielle, labyrinthique dans la lodge, où on va, avec Dale Cooper, essayer d'en sortir. De la même façon qu'on va essayer de sortir du récit, c'est la fin. Et on en sort abîmé, hein, puisque sans raconter la fin, Dale Cooper ne sera plus jamais le même, on va dire ça, comme ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que c'est des images qui ont marqué le plus l'esprit, mais c'est les images les plus absentes, en fait. Mmh. Or, elle conclut la série.
Elle conclut donc, la série donc en juin 81. 11, Laura Palmer, elle susurre à Dale Cooper, donc dans cette Black Lodge, nous nous rencontrerons à nouveau dans 25 ans. Et de fait, 25 ans plus tard, Twin Peaks revenait sur la chaîne Showtime pour une troisième saison intitulée The Return. Les deux premiers épisodes ont été projetés donc en 2017 en avant-première au 70e Festival de Cannes. Ça, c'était presque contre toute attente. Et là, David Lynch, Charlotte Bloom, il a repris possession de sa, quelque part de sa création avec Return.
Il passe d'une chaîne hertzienne publique qui en gros fait un coup de poker, hein. ABC était en train de s'écrouler et en gros c'était un peu bon, on n'a plus rien à perdre, allez on lui donne son Twin Peaks et on verra bien, à Showtime qui est une chaîne spécialisée dans les séries, qui n'a pas peur des séries, qui comprend comment ça se fabrique, qui fait aussi un énorme coup marketing en s'achetant David Lynch, et qui lui donne toute la liberté dont il a besoin. Alors, Lynch en joue beaucoup, hein, il a menacé en plein milieu de la fabrication de partir, il a annoncé que finalement c'était annulé pour avoir plus d'argent, enfin, il s'est fait plaisir, hein, avec cette saison 3 de Twin Peaks, qui malheureusement n'a pas du tout marché. Il y a des épisodes qui ont fait des 100 000 spectateurs aux États-Unis. Enfin, quand on y pense, c'est presque inimaginable.
C'est presque expérimental aussi, cette saison 3.
Ah bah c'est totalement expérimental et je pense que nous, fans qui connaissons très bien, qui attendions pendant 25 ans qu'elle revienne en se disant est-ce que vraiment il va revenir, qui connaissons bien les personnages, on était complètement déstabilisés. Je n'ose pas imaginer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est Twin Peaks et qui tombe là-dessus. C'est-à-dire que ça a quand même ni queue ni tête. Il faut 3 visionnages pour essayer de trouver les fils conducteurs et essayer de comprendre vraiment ce qu'on nous raconte. Lynch pousse à fond cette doctrine qui est plutôt la doctrine d'HBO, qui est le spectateur est intelligent, on n'est pas là pour tout lui expliquer, qu'il se démerde. Et parfois, devant The Return, on se dit, mais il a pas envie que je comprenne. Ce que je regarde jusqu'à l'extrême épisode 8 dont on a énormément parlé, qui est un épisode en noir et blanc, qui parle de bombes nucléaires, qui nous amène au Mexique, enfin qui nous perd, qui ne raconte finalement plus l'histoire, qui est en plein milieu de la saison. Et là, on voit le Lynch qui se fait plaisir et j'ai envie de dire quasiment qu'il se venge, en fait. On a tué son bébé une fois, on ne le tuera pas deux fois.
Axel Cadieu, cette dernière saison, enfin cette Return, elle a été presque qualifiée même de film de l'année par les cahiers du cinéma. C'est dire.
Ouais, bah c'est le vieux débat historique. Qu'est-ce qu'un film, qu'est-ce qu'une série? Je crois que Lynch lui-même a dû dire que finalement c'était un grand film. Enfin, je sais plus exactement, mais pour moi, ce qui compte, c'est surtout qu'il a été en plein contrôle de son œuvre. C'est ça qui reste essentiel. Après, que ça soit considéré comme un film par certains qui veulent l'inclure dans des tops ou comme une série, ce qu'elle est, parce qu'elle répond à la définition d'une série. Finalement, c'est accessoire. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que disait Charlotte sur le fait que même les fans qui connaissent très bien la série, les deux premières saisons ont été désarçonnées, et moi le premier par exemple. Je marchais énormément sur la nostalgie, sur l'envie de retrouver des personnages, sur l'envie que les personnages se retrouvent entre eux. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a quasiment pas, ou alors qu'on a qu'à la toute fin. Et je trouve que, si peut-être que certains seront pas d'accord avec moi, mais s'il y a une vraie différence entre la saison 3 et les deux premières saisons, c'est que je trouve que cette saison 3 est bien plus cruelle, envers le spectateur aussi. Et peut-être qu'il se venge de ABC, d'une certaine manière, mais je trouve aussi que il y a une manière de dire aux spectateurs vous avez attendu, vous avez attendu, vous avez attendu, maintenant vous l'avez au bout de 25 ans ou même un peu plus, mais ça sera pas si simple non plus, quoi. Et c'est un ultime pied de nez, c'est extrêmement fort. Moi, j'ai besoin de revoir encore cette troisième saison pour vraiment l'appréhender et m'en saisir, parce que c'est un geste artistique, c'est un peu une banalité ce que je raconte, mais c'est quand même un geste artistique assez unique.
Donc du coup, c'est difficile d'imaginer une quatrième saison, même si certains fans en rêvent.
Moi, j'en reste pas. Je pense qu'il faut la laisser tranquille, cette série. J'ai rien contre cette saison 3, mais c'est vrai que quand on est un peu lucide et un peu honnête, je pense que c'est pas du tout ce qu'on attendait. Et si on met bout à bout les scènes qui correspondent à ce qu'on attendait, où on revoit nos personnages chouchous, où on revoit Norma et Ed qui concluent enfin leur histoire d'amour 25 ans plus tard, etc., je pense que c'est 10 minutes sur 16 épisodes. Donc en fait, on n'a pas été récompensé du tout de notre patience. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas de saison 4, même si j'espère par contre qu'il y aura d'autres choses de Lynch à se mettre sous la dent, hein, parce qu'il nous manque. Quand je revois la saison 3, je me dis que c'est comme s'il nous avait dit « Bon, c'est ça que vous vouliez, voilà. Maintenant, je vous laisse vous démerder avec... Il y a le côté « Be careful what you wish for », quoi. Faites attention à ce que vous voulez, parce que parfois, quand on l'obtient, on est déçu. Et c'est vrai que la polémique et le retour d'expérience de cette saison 3 ne donne pas envie du tout qu'il y ait une saison 4.
On reverra avec plaisir au moins le pilote, la saison 1, toute une partie, la moitié on va dire, de la saison 2. Et puis voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout forcément, mais on restera dans cet univers de Twin Peaks qui reste quand même culte et qui aura façonné durablement la télévision. Charlotte Bloom et Axel Cadieu, merci. Je rappelle, Charlotte Bloom, qu'on peut vous retrouver sur OCS avec la série documentaire The Art of Television. Axel Cadieu, je rappelle le titre de votre livre, Voyage à Twin Peaks, publié chez Capricci. À signaler aussi l'ouvrage multidisciplinaire supervisé par Sarah Hatchwell, Twin Peaks à l'intérieur du rêve, aux éditions Le Bord de l'eau. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. Un grand merci à Fabien Mugneret. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à tous.